Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Pierre, donc bonjour.
Bonjour.
Alors capitaine, vous êtes capitaine dans l'armée de terre, mais vous faites partie de cette catégorie particulière qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir quelques fois dans le podcast, qui sont les aviateurs de l'armée de terre, donc au sein de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Et pour être plus précis, vous êtes... on sait qu'il y a toute une faune
pas si sauvage que ça.
Pas si sauvage, apprivoisé en tout cas, des montures au sein de l'ALAT, donc de l'aviation légère de l'armée de terre. Il y a les gazelles, j'ai déjà eu des histoires en gazelle. Ouais. Et vous êtes notre premier pilote de Tigre. Donc les Tigres sont les hélicoptères de combat, vraiment tout à fait axés autour d'un canon qui est vraiment l'arme centrale du Tigre. Vous êtes donc pilote au premier RHC, donc le régiment d'hélicoptères de combat, qui est basé où ?
À Phalsbourg, non loin de Strasbourg.
D'accord. Et je crois que vous êtes ici aujourd'hui pour nous raconter une histoire, comme souvent, parce que c'est évidemment l'un des déploiements principaux de l'armée française, des armées françaises, c'est Barkhane. Alors, où est-ce que c'était précisément et quand est-ce que c'était ?
Alors, pour planter un peu le décor, donc on est en début de l'été 2019, au Mali, à Gao, qui est notre base principale de déploiement, à partir de laquelle on se déploie un peu partout sur le territoire. Moi, donc pour un peu planter le décor, moi j'en suis à mon deuxième mandat. Donc en fait, je suis encore un jeune pilote.
Et les mandats, c'est combien de temps ?
Alors ça a varié ces dernières années pour différentes raisons, principalement axées autour de la problématique humaine et technique. De régénération du potentiel humain et des machines. Donc on était sur
sable, ça use les hommes et les machines, quoi.
Oui, voilà. Pour faire simple, globalement, ça use les hommes et les machines. Et puis derrière, ça sous-entend une logistique, une nouvelle fois humaine et technique, lourde, pour se permettre d'avoir un taux de disponibilité suffisant. Et donc avoir les relèves techniques des machines, et puis donner les heures aux équipages une fois qu'ils rentrent en métropole, etc. Donc ça, c'est une problématique qui n'est pas forcément évidente et qui est consommatrice de beaucoup de ressources.
Non mais donc c'est un mandat, c'est quoi, c'est 2 semaines, 2 mois?
Alors à ce moment-là, on était sur un portage à 2 mois. L'année dernière, je suis passé à 4 mois. J'ai fait partie de ces membres d'équipage qui ont fait des mandats de 4 mois. Et là, on a changé de portage et on est maintenant sur du 3 mois, ce qui est globalement idéal à tout point de vue, humainement ainsi que techniquement.
Donc c'était votre deuxième séjour de 2 mois ?
Exactement. Le parallèle que j'aime à faire, c'est que globalement, on est un peu comme sur une construction d'une maison. À l'issue de cette première OPEX, j'avais établi les fondations. Donc j'avais appréhendé le théâtre, j'avais déjà vu les particularités des posées en nuit 5 très sombres, les particularités propres à notre métier, et donc ça me permettait d'arriver un peu plus sereinement. Par contre, j'avais encore beaucoup d'expérience à acquérir, clairement, et dans cette optique-là, je me retrouve quand même pilote du chef de patrouille. Alors il faut savoir que...
Ça veut dire quoi ?
Alors le chef de patrouille... En plus de sa qualité d'être chef de bord, donc patron de son aéronef, il est en mesure de lider un module allant jusqu'à 3 machines.
Donc, alors, rappelons peut-être que donc, vous êtes 2 parties.
Alors, exactement.
Donc, c'est vrai. Il y a un pilote, celui qui tient le manche,
exactement,
littéralement.
C'est ça.
Et il y a le chef de bord.
Chef de bord, qu'on appelle communément dans notre métier le gunner, qui est forcément le chef à bord, en place arrière.
Parce que c'est lui qui tire.
Exactement, celui qui a tous les senseurs, et philosophiquement, dans notre institution, effectivement, le chef de bord est forcément en place arrière, parce qu'effectivement, c'est lui qui va délivrer les feux, donc c'est lui qui a la responsabilité de délivrer les feux, aidé en ça par le pilote, bien évidemment, on pourra revenir un peu plus longuement dans les détails à l'issue, mais effectivement, le chef est toujours en place arrière. À cela se rajoute la possibilité d'avoir un chef de patrouille. Ce qui sous-entend ce que j'aime à dire par rapport au pilote, forcément ça en découle directement sur le travail du pilote, c'est que quand on est le pilote d'un chef de patrouille, on se doit d'être le pilote plus ou le mini-chef de bord. En ce sens où on se doit d'avoir le temps d'avance qu'on nous apprend depuis tout petit en bon militaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête au simple carcan du pilote, comme vous le disiez, de piloter son vecteur, mais bien d'avoir le temps d'avance pour qu'en permanence, globalement, on suive la guerre de son chef de bord. Et qu'on soit en mesure soit de le décharger d'une fréquence radio, parce que très rapidement, vous imaginez que sur des opérations un peu denses, rapidement le réseau radio est saturé, il y a beaucoup d'assets, donc en gros d'éléments qui rentrent dans la mission, et donc nous, on se doit avoir le temps d'avance.
Donc c'est qu'il a le type derrière vous a un boulot particulièrement compliqué, donc c'est bien de pouvoir en prendre un peu plus sur votre assiette.
Exactement. En fait, on se doit d'être un pilier pour son chef de bord ou son chef de patrouille. Et donc, pour ce faire, il faut que nous, on comprenne globalement quand même ce qui se passe derrière, on connaisse ses contraintes, à tel point que déjà de par la constitution dans le Tigre, où on vole en tandem, on ne se voit pas. Mais parfois, quand on arrive à avoir la synergie, qui va bien, on n'a même plus besoin de se parler, parce que moi, je suis la garde de mon chef de bord, et le but aussi, c'est de ne pas le couper, et d'être toujours le plus autonome possible, pour que je puisse positionner la machine, soit pour donner des vues, soit pour pouvoir délivrer un feu, soit pouvoir, par exemple, maintenir la déconfliction avec les autres machines. Parce que très rapidement, on peut se retrouver avec beaucoup de vecteurs dans un volume assez contraint.
C'est marrant, c'est assez beau ce que vous décrivez. C'est une sorte de truc de... c'est ça, une équipe, quoi. C'est savoir ce dont l'autre a besoin sans avoir besoin de prendre des mots.
C'est un peu le fondement même, à mon sens, du militaire. Puisque quand on est en opération, on est amené à vivre dans des conditions dégradées. Pas forcément toujours marrante, et forcément nos chefs se doivent de pouvoir se reposer sur nous sans sortir de belles phrases ou de grands mots, mais c'est clairement ça. Et nous, on se doit aussi de pouvoir compter sur nos mécanos et toute l'équipe qui nous entoure, du plus petit échelon au plus élevé, bien évidemment.
Donc là, deuxième tour, et cette fois vous êtes donc le pilote du chef de patrouille.
Exactement.
Et alors c'était quoi les missions pour les Tigres? C'est-à-dire, on se souvient peut-être, les auditeurs se souviennent peut-être des récits de gazelles qu'on a eus, ou les... Bon, globalement, les gazelles, il y avait plein de missions, mais il y a notamment des missiles anti-chars qui servent très bien pour certaines choses. Exactement. Le Tigre, on sait que c'est un canon très précis, mais qui sert notamment en appui air de troupes au sol et qui permet de viser assez précisément des cibles.
Exactement.
Quelles étaient vos missions? Et puis aussi, est-ce que à ce moment-là, au moment de l'histoire que vous allez nous raconter, on va finir par y venir, mais est-ce que vous aviez déjà eu des engagements? Est-ce que vous aviez déjà été amené à ouvrir le feu? Ou est-ce que c'était des patrouilles, j'ai envie de dire pas le quotidien, mais si, un peu le quotidien quand même.
Oui, je vois ce que vous dire. Alors, j'ai eu la chance, sur le premier mandat, c'est là où... En toute humilité, j'estime avoir de bonnes fondations pour ma maison. Effectivement, j'ai été engagé sur une ou deux missions assez intéressantes où on a quand même un peu engagé et on a effectivement délivré des feux. Et donc effectivement, ça m'a permis doucement mais sûrement de construire ce début d'expérience nécessaire pour être une nouvelle fois le meilleur appui possible. Pour répondre à votre question, les différentes missions, en fait, le spectre est assez large. Un, parce que le vecteur, le système d'armes est capable d'une polyvalence qui n'est plus approuvée de nos jours. Vous parliez du canon, mais on a aussi la possibilité de délivrer du missile via le missile Fire, des roquettes. Et puis à l'avenir, avec le rétrofit mi-vie de la machine, on obtiendra encore des capacités accrues. Donc il y a déjà ce premier point. Après, au Mali, on a une posture permanente d'alerte, où on maintient ce dont je parlerai à l'issue, donc d'alerte avec un pion de base de deux machines, qui doit servir en appui pour l'ensemble de la force Barkhane ou des forces amies. Et puis après, vous avez les missions du quotidien. Typiquement, ça va être escorter un hélicoptère Chinook du détachement anglais pour une mission de logistique.
Les Chinook, on va préciser, sont ces très gros hélicoptères avec deux hélices.
Qui nous rendent de fiers services.
Oui, et dont les forces françaises sont très jalouses, parce que c'est une capacité que la France n'a pas, malheureusement, ces hélicoptères lourds de transport de matériel lourd, donc. Mais bon, heureusement, on a des alliés qui en ont, et qui et donc le Tigre, le cas échéant, peut être amené à les appuyer.
Effectivement, de l'escorte de NH-90, puisque bien évidemment, en hélicoptère de manœuvre, donc en hélicoptère de transport de nouvelle génération avec le NH-90, on est amené aussi à les escorter. Et puis après, il y a l'ensemble de la force Barkhane qui est présente en permanence sur le territoire, sur des différentes bases avancées. Vous parliez récemment de Menaka, on y va régulièrement sur d'autres sites, et donc là on peut être mis et prépositionné en appui, ce qu'on appelle chez nous dans le jargon aller faire du camping. Et donc on est prépositionné sur ces différentes bases et donc on est mis à disposition et on travaille au profit des forces au sol. Et à cela se rajoute un dernier point, non des moindres, ce qu'on appelle quand on est en fait on est GTDA menant. Alors GTDA pour regroupement tactique des airs aérocombat. Donc en gros l'ensemble de du pool et du groupe ALAT dans lequel on intégrait jusqu'à présent aussi une partie groupement commando montagne. Et donc là on peut aussi mener des actions sur notre entre guillemets sur notre initiative. Donc,
D'accord. Vous avez aussi vous êtes aussi à l'intérieur d'un commandement juste de l'ALAT de tous les ALAT qui sont dans le coin et on peut vous envoyer sur telle ou telle mission.
Exactement. Alors bien évidemment toujours en lien avec le PCIAT qui est avec la etc.
C'est bien que quelqu'un soit au courant de ce que vous faites, effectivement.
Voilà, mais alors ça, donc bien évidemment, toute la chaîne de commandement prendra les décisions qui s'imposent, mais fonction de, une nouvelle fois, de la situation tactique, de la menace, de la présence d'ennemis, etc., ça influera donc directement sur le type de mission.
Et alors, donc ce jour-là, dans ce deuxième tour, racontez-nous un peu ce souvenir, puisque c'est toujours un souvenir. Donc, racontez-nous comment ça s'est engagé et comment ça s'est...
Alors, donc, comme je vous le disais précédemment, on a en permanence donc, deux machines d'alerte, donc en mesure de partir, et une fois encore, donc sur alerte.
Non, mais soit dit en passant, puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps quelqu'un de la posture permanente de sûreté, c'est quoi l'alerte? C'est quoi? C'est 10 minutes, un quart d'heure, une
heure? Alors, ça va dépendre. Du plus court au plus lent, on est capable globalement, à partir du moment où l'alerte va être déclenchée, on est tout le temps joignable, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quand on en appelle, bien évidemment, avec nos talkie-walkie. On est capable, si l'urgence est vraiment avérée et qu'il y a un caractère où on doit clairement passer la seconde, en 5 minutes, on peut avoir mis la machine en route et partir, quoi. Et puis après, le but, une nouvelle fois, comme j'ai toujours gardé en tête, comme me disait un de mes moniteurs quand j'étais en école, Pierrot, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Donc il faut toujours prendre le temps de poser les éléments, clairement, et d'avoir le fond de sac nécessaire pour partir en sécurité et avoir les éléments pour accomplir la mission.
Mais parfois, c'est bien de prendre 5 minutes de plus à terre par rapport à ce que vous êtes capable de faire et de ne pas avoir oublié un truc ou d'avoir les idées claires une fois que vous êtes en l'air, quoi.
Exactement. C'est là qu'est la particularité du métier. C'est une des difficultés. C'est qu'il ne faut pas jamais se précipiter, surtout quand, par exemple, on part pour soutenir des troupes au sol qui sont prises à partie, qui sont en contact. Forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'aller en découdre, mais surtout pour aider les camarades au sol. Et il faut savoir prendre le temps, poser les éléments, prendre les éléments minimum, mais nécessaires et vitaux pour pouvoir partir, effectivement. Donc, en fait, on a cette alerte-là qui varie de 5 à 15 minutes, joignable en permanence.
Et donc, ce jour-là, c'était... Donc, vous étiez sur alerte, vous recevez un message.
Un peu avant ça, pour un peu vous dépeindre le tableau, comme vous le disiez, en fait, il y a un peu une certaine forme de routine qui s'installe quand on est en OPEX, bien évidemment, et donc là on vit au rythme malien, au rythme africain, parce que bon, bien évidemment, quand vous avez 45 degrés à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre, l'activité se ralentit un peu en début d'après-midi. On en profite pour se reposer, discuter entre nous, se poser un peu.
Ça voulait dire, c'est pas une intégration dans la population et la société malienne, c'est juste qu'il fait chaud, quoi.
Voilà, exactement. Tout à fait. Donc on prend le rythme où on s'adapte aux conditions climatiques pour toujours, une nouvelle fois, maintenir le potentiel humain et les capacités de la force en permanence. Donc on se retrouve un dimanche au début d'après-midi où on a l'habitude d'aller se reposer, fermer un peu les yeux, etc., mais toujours joignable. Et j'annonce à mon chef de bord, qui est donc le chef de patrouille de l'élément, d'alerte, écoute, je vais me reposer, etc. Et je me souviendrai encore me dire, de toute façon, c'est pas qu'il se passe jamais rien, mais bon, ça va être... je pense que ça va être calme et tout ça, je vais pouvoir faire ma sieste tranquille, je me mets à lire, j'écris deux, trois trucs, et puis bam, ça déclenche. En gros, notre indicatif, en appelant mon chef de bord, qui une fois qui est chef de patrouille, au CO, donc au centre opération, pour prise de consigne. On sait qu'on est d'alerte, donc on sait que forcément, là, directement, tous nos sens, un peu comme vous aviez pu en parler précédemment pour l'APO. On aboie dans un état un peu de léthargie à se reposer, directement tous les sens se mettent en éveil, et en 10 secondes, on a sauté dans nos chaussures et on part en guerre.
La manière l'APO, dont... c'est la police des airs. On se souviendra de ce qu'on a fait avec le colonel David il n'y a pas si longtemps sur justement le fait que quand ça déclenche et il y a l'adrénaline qui arrive en plus.
Voilà, et l'adrénaline et puis l'ensemble de l'entraînement qu'on a acquis, et on se rend compte de la finalité, de la véracité de l'entraînement, qui fait qu'en fait vous arrivez à acquérir des automatismes qui ne font pas que vous travaillez sans utiliser votre matière grise, mais qui vous permettent de gagner du temps quand il le faut en travaillant rapidement, mais sans se précipiter une nouvelle fois. Et donc la manière dont on organise dans ces cas-là, c'est que les chefs de bord, chefs de patrouille partent prendre les éléments, les pilotes partent au plus vite au Bachmann, notre hangar souple à Gaou, où sont prépositionnées nos machines avec nos mécanos. Et donc nous, notre job en tant que pilote, en liaison avec le chef de bord, c'est de prévenir les mécanos, sortir les machines le cas échéant, et être capable de mettre en œuvre la machine, voire même de commencer à mettre les différentes checklists de mise en route pour gagner du temps. Et après, le chef de bord arrive et se brêle et on est parti. Donc en fait, le but, c'est d'optimiser un maximum la logistique autour de la mise en œuvre pour optimiser la rapidité pour mettre les machines en l'air. Donc en fait, je suis en liaison permanente avec mon chef de bord et en lui demandant, ok, est-ce que je fais sortir les machines ou pas? Oui, ok, maintenant tu fais sortir les machines. C'est une alerte réelle, il n'y a jamais d'alerte qui ne le soit pas, mais là il y a quelque chose de sérieux, en l'occurrence une attaque de convoi, un convoi civil qui remontait, qui est un peu plus sud de Gao, qui a monté sur notre position et donc qui s'était fait attaquer par un ensemble de PAX, de terroristes armés en moto. Donc par définition une action assez fugace, très rapide, et puis malheureusement protégé par les forces armées maliennes, et malheureusement le temps que l'information remonte à l'ensemble de la chaîne de commandement, vous doutez bien qu'en plus de la fugacité de ce type d'action, plus le temps que l'information arrive jusqu'à notre chaîne de commandement et qu'elle soit traitée, nous après ça déclenche très vite, mais il faut qu'on ait l'information. Donc dans tous les cas, on part au plus vite, on arrive...
Donc ça voulait dire, il y a un truc, faut pas traîner, ça va aller vite, en plus l'information a pris du temps à remonter jusqu'à vous, mm-hmm. Donc vraiment, si vous voulez avoir une chance de les attraper, enfin de les... En tout cas d'arriver pas trop tard et qu'ils soient pas complètement dilués dans le désert, il faut vraiment se dépêcher. Quoi.
Exactement, et surtout à ce moment-là, vous doutez bien qu'en fait nos informations sont relativement parcellaires. Donc le but c'est clairement d'aller le plus vite sur zone pour sécuriser la zone. Alors effectivement, si comme vous dites on peut essayer d'attraper, ou si on a reçu l'ordre de détruire, ou effectivement on le fera, mais le but c'est surtout de sécuriser dans un premier temps la zone et l'ensemble du convoi soit sécurisé. Donc c'était un convoi civil.
On a interrompre l'attaque si l'attaque est
exactement est en cours et pour éviter des blessés ou potentiellement des morts supplémentaires. Donc on arrive sur zone, il faut bien comprendre qu'on part déjà avec le minimum de fond de sac, les éléments nécessaires pour la mission, mais bien évidemment après la coordination se met en place une fois qu'on est en l'air pendant la phase de transit. Moi en tant que pilote...
C'était loin ?
C'était, si je vous dis pas de bêtises, c'était une trentaine de nautiques sud de Gao, donc ça fait entre 50 et 55 km. Donc,
oui, t'es d'accord, mais ça fait combien de temps ?
On y est en un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça va relativement vite, mais un quart d'heure, 20 minutes, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Et donc on met à profit ce temps-là pour se coordonner au sein de la patrouille.
Vous êtes combien ? Deux, trois ?
Deux. Donc là, une nouvelle fois, le pion de base, c'est deux machines. Et la patrouille donc, d'alerte, c'est forcément deux machines. Après, en mesure d'être renforcé le cas échéant, soit s'il y a besoin de relève, etc., bien évidemment. Donc en fait, il y a tout un échelon derrière qui va aussi se mettre en branle pour pouvoir assurer une relève, ou si on a une casse aussi, il faut toujours parer à tous les canons conformes, et Dieu sait s'il y en a. Et donc effectivement, il y a tous les échelons qui vont se mettre en branle derrière. Donc on se coordonne, et là donc moi mon job en tant que pilote, c'est déjà de, en liaison avec mon chef de bord, mais c'est là où l'autonomie est assez importante chez nous, avec l'autre pilote, de se dire ok, on va arriver sur zone, on va se mettre en évolution de telle manière, à telle altitude, tu évolueras main droite par rapport à la cible, moi main gauche, extérieur, intérieur, etc. Pour bien évidemment, dans un premier temps, assurer la sécurité, donc la déconfliction au sein de la patrouille. Et surtout, après, tactiquement, en fonction des éléments qu'on a par rapport à la situation tactique, bien évidemment, si on a par exemple une menace solaire, on se rapprochera beaucoup moins de la cible que si elle n'est pas présente, bien évidemment.
Main droite, main gauche, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous volez toujours côte à côte, vous n'allez pas vous mettre de part et d'autre de la cible.
Alors, ça va vraiment dépendre de la situation tactique et du terrain. Comme on le dit, le terrain commande. Nous, on va surtout se mettre en place souvent ce qu'on appelle en dunking ou en wheel. En gros, en cercle autour de la cible, étagé verticalement, dans un sens horaire et anti-horaire. Ça permet en fait d'avoir...
Donc vous tournez, il y a les deux hélicoptères qui font des rotations exactement. Au-dessus de la cible, exactement. Dans des sens inverses,
Pour avoir une constance des vues, une nouvelle fois en s'étageant, et permettre pour la machine, qui est ce qu'on appelle inner, donc à l'intérieur du cercle, la plus proche, donc d'avoir des vues de manière resserrée sur le point d'intérêt, et toujours une machine en appui, qui elle a ce qu'on appelle l'overwatch, donc va voir sur un champ plus large, pour assurer la sûreté, là en l'occurrence par exemple du convoi, et aussi au sein même de la patrouille. Donc en fait avoir une vision la plus large possible, pour toujours pareil, assurer sûreté et sécurité.
D'accord, donc là vous 10-15 minutes, vous arrivez sur le convoi, et là...
dans un premier temps, on observe, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre liaison avec les troupes au sol. Malheureusement, il s'avéra qu'on n'arrivera jamais à prendre liaison. C'était des troupes FAMA, donc de l'armée malienne. Je pense que peut-être malheureusement, ils n'étaient tout bonnement pas équipés de postes radio, ou alors l'information ne leur était pas redescendue quant à une fréquence à utiliser, etc. Donc en fait, on fait ce qu'on peut. Visuellement, globalement, on voit que la situation est calme. De toute façon, les personnels en question qui ont mené l'attaque sont déjà partis. Donc très rapidement, on voit des véhicules aussi de l'armée malienne arriver en renfort, donc aussi participer à la sécurisation du convoi. Donc ça rassure un peu dans sa globalité. Au niveau de la situation tactique, les choses sont relativement calmes. Donc dans un premier temps, mon chef de bord donne l'ordre à son ailier, enfin notre ailier, de lui vraiment prendre un scan plus large. On est au bord du Niger. Donc en fait de partir plus à l'est, parce qu'on est donc sur la partie est du Niger, donc partir un peu plus à l'est pour aller scanner et voir si on ne trouve pas des traces de véhicules, des motos, etc. Au bout d'un moment on le rejoint, le but, ça c'est toujours pareil aussi, moi mon job de pilote c'est de maintenir le visuel avec l'autre machine pour pouvoir être en mesure de reformer la patrouille ou lui de lui dire écoute positionne-toi de telle manière.
Voilà. Donc là l'idée c'est vous prenez un peu du champ avec l'idée que vous êtes dans le désert, donc quand même on voit bien dans le désert, ouais. On voit les trucs de loin, donc il y a moyen que vous les voyez encore au loin
exactement.
En train de s'échapper.
Exactement, le but pour nous c'est d'essayer de les retrouver effectivement une fois qu'on a assuré la sécurisation du dit convoi.
Et donc, de les retrouver, parce que là, il y a une frontière, quoi. C'est pas. C'est, si vous les retrouvez au Niger, vous les retrouvez au Niger, ou c'est.
Alors, on s'arrête à la frontière. Du Niger, c'est du fleuve Niger.
Ah, pardon.
Du fleuve Niger.
D'accord.
Donc, effectivement, l'attaque s'est produite sur une des rares nationales qu'il y a là-bas, qui remontait le long du Niger, donc axé nord-sud, et l'attaque a eu lieu donc sur le flanc est.
D'accord.
Donc forcément.
Vous allez regarder, voir s'ils n'auraient pas traversé le fleuve, etc.
Ouais, exactement. Alors, rapidement, en moto, on comprend bien qu'il n'y a pas de voie de franchissement. Donc, on porte plutôt nos vues sur la partie est, donc sur la partie un peu plus désertique et en plein milieu des terres, quoi. Et puis très rapidement, on a à ce moment-là, on a encore la liaison avec notre centre opération. Et rapidement, en fait, on apprend qu'un drone Reaper de l'armée de l'air, qui était globalement sur zone, est retasqué à notre profit. Et le gros avantage, c'est que pendant leur transit, un peu comme nous, leur capteur, leur optronique continue à fonctionner et ils scannent l'environnement.
Si les types sont sur le chemin du Reaper qui va vers vous, ils risquent de les attraper, quoi.
C'est là aussi qui est une des clés de l'entraînement et puis de la synergie nécessaire. C'est-à-dire que rapidement, on va se coordonner, dire ok, on est positionné à tel endroit, on progresse de tel endroit à tel endroit, vous arrivez de là, ok, je vous propose de scanner ce secteur-là, nous on va scanner ce secteur-là, et puis n'hésitez pas à m'alimenter en éléments nouveaux. Donc là, ça c'est le discours que le chef de patrouille tient au drone. Et rapidement, on apprend que le drone a un visuel, une PID, une VID, donc Visual Identification et Positive Identification, sur des personnels à hauteur de 20 à 30 pax, armés d'ALI, donc d'armement léger d'infanterie, donc typiquement Kalachnikov, etc. On apprendra après coup qu'il y avait de l'armement un peu plus lourd, un petit peu PKM, donc encore de l'armement d'origine russe, d'infanterie, mais un peu plus lourd.
Mais c'est pas de la mitrailleuse lourde ou semi-lourde, c'est pas de la 12-7.
Non, non, c'est d'un calibre un peu inférieur, hein. C'est de la 7,62, pardon, mais bon, ça peut commencer quand même un peu à causer. Donc c'est une menace qu'on prend jamais, jamais
ça à peut commencer à causer, vous voulez dire, même pour vous?
Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait.
C'est-à-dire, si parce qu'on en parlait avec vos collègues pilotes de Gazelle qui disaient, je ne sais plus s'ils le disaient comme ça, mais ils disaient globalement, c'est blindé contre les moustiques à peine. Non, mais c'est-à-dire, si on se prend une rafale dans la bulle, ça devient très rapidement embêtant.
Alors ça, c'est un des gros avantages que le Tigre apporte, effectivement, par rapport à nos camarades sur Gazelle. C'est que, clairement, le Tigre 1 est une machine qui a été pensée depuis le début comme une machine de combat. Et particulièrement bien pensé. Quand on opexise la machine, donc quand on la prépare pour partir en relève technique en opex, on rajoute l'équivalent d'à peu près 180 kg de blindage autour de la cellule vie, ce que j'appelle la cellule vie, donc le cockpit, des plaques extérieures, intérieures en céramique. Nous, on a notre gilet. Nativement, les baquets, donc dans le cockpit, sont équipés aussi de plaques de blindage, qui font qu'on est quand même dans une bulle de sécurité et le plexi partie avant. Du Tigre est blindé.
Mais quand même, si jamais ça touche à la 762, c'est pas bien.
Non, bah non, potentiellement ça pourra quand même faire un trou. Maintenant, on a la chance une nouvelle fois par rapport à un aéronef comme le Gazelle d'être bimoteur. Le principe de redondance des systèmes que l'on retrouve de manière générale dans l'aéronautique est particulièrement présent sur le Tigre. On a deux chaînes hydrauliques, beaucoup de systèmes sont doublés et positionnés de manière dissymétrique. Afin que si on est touché par un projectile, quel qu'il soit, s'il traverse un endroit et qu'il détruit un bloc avionique, et qu'il traverse complètement la cellule de part en part, la cellule de l'aéronef, il ne détruise pas le deuxième bloc. Donc c'est quand même bien conçu. Mais c'est sûr que...
Il n'y a pas lieu de s'affoler incroyablement, mais quand même, ce serait bien de ne pas se faire toucher si jamais
il y a... Oui, c'est toujours mieux de ne pas se faire toucher.
C'est vrai que c'est un bon principe militaire, voilà. C'est bien de ne pas se faire toucher. Donc... Ils ont des trucs qui peuvent faire mal quand même.
Et surtout, le nombre de personnel présent dans cette zone-là, armé, là, il n'y a rien d'innocent. Quoi. Et ça ne court pas quand même les rues au Mali de tomber sur un rassemblement d'une 20 à 30 personnels armés en plein milieu du désert. Et puis rapidement, ils se rendent compte que les déplacements...
Ils ne sont pas là pour un barbecue.
Oui, exactement. Ils ne sont pas là pour faire du tricot, quoi. Clairement. Et malgré le fait que le mot désert n'a jamais aussi mal porté son nom, parce que quand on arrive les premières fois, on est persuadé que le désert, comme son nom l'indique, c'est désertique, hein, j'enfonce des portes ouvertes, et en fait non, il n'y a jamais autant de vie que dans un désert. Et donc là, mais clairement, on sait qu'on a globalement des méchants, pour parler simplement, en face de nous. Et donc là, c'est là qu'est toute la difficulté, et en parallèle, l'intérêt du chef de patrouille. C'est que très rapidement, dans un laps de temps contraint, il faut qu'il établisse ce qu'on appelle son game plan par rapport aux éléments de la situation tactique qui lui sont donnés. Et là, c'est là où mon job rentre clairement en ligne de compte.
Et donc ça, il faut savoir quoi. Est-ce qu'il engage? Est-ce qu'il faut engager? Est-ce qu'il ne faut pas engager? À qui est-ce qu'il faut demander?
Alors, engager ou pas engager, ça, la décision ne nous appartient pas. C'est effectivement toute la chaîne de commandement au-dessus en rapport avec les différents comptes rendus qu'on va faire, où la décision sera prise. Et vous le verrez à l'issue que... on aura fait preuve d'une grande réactivité. Quand je dis on, c'est tout l'ensemble de la chaîne. Nous, à ce moment-là, c'est surtout vraiment de manière pratique et tactique, savoir concrètement, moi, par exemple, dans mon job de pilote, ok, on arrive de l'ouest, le vent est d'ouest, écoute, je te propose que soit on décale un peu plus au sud, un minimum 15 nautiques de la zone, pour pas être décelé par rapport au vent, et dans le pire des cas, si on a le temps et que la situation nous le permet, on va même arriver par l'est, pour être le plus discret possible, sachant qu'un hélicoptère est très sensible au vent. Quand vous arrivez sous le vent, vous êtes capable d'être entendu à des kilomètres, et quand vous arrivez au vent, vous pouvez rester discret jusqu'à quasiment, enfin ne pas être entendu jusqu'à 1,5 km, 2 km.
Quand vous arrivez sous le vent, vous êtes discret.
Exactement, pardon. Quand vous arrivez au vent, vous exactement. Êtes... Autant pour moi, effectivement.
Non, mais donc, si vous intercalez entre la cible et l'origine du vent... Là, le vent va porter le bruit de votre odeur. Alors que sinon, il y a une vraie furtivité qui est possible, même en tir.
Oui, tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est un des éléments concrets dont on doit tenir compte dans ce laps de temps assez contraint où on doit monter l'ensemble de la manœuvre. Et là, ça, c'est aussi le travail du pilote que d'aider un maximum, proposer à son chef de patrouille qui lui prendra les décisions potentiellement et pour lui faire gagner du temps et le décharger une nouvelle fois un maximum, quoi.
Et alors, il y a le temps ou pas de faire le tour?
Alors, effectivement, la question est bonne. En fait, très rapidement, en même temps et en parallèle, les différents comptes rendus remontent via le drone avec lequel on a la liaison. Et on nous met en attente au sud de la zone d'action pour ne pas être décelé. Et on attend que l'ensemble des choses se décantent et surtout se décident. Et comme je vous le disais précédemment, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Et en fait, on comprend que là, c'est en train de réfléchir à vitesse grand V pour que la bonne décision soit prise, à savoir si on nous envoie frapper, neutraliser, pour détruire, ou on prend le temps de renvoyer les éléments Tigre, en l'occurrence notre patrouille, pour revenir avec peut-être une force de frappe plus importante, et en étant à même potentiellement aussi de contenir les éventuelles fuyantes, donc l'ensemble du spectre de menaces qui se présentera à nous, et de revenir aussi avec de l'hélicoptère de manœuvre pour pouvoir déposer des commandos qui sont intégrés au sein de notre GTDA, donc l'ensemble du groupement ALAT, Aérocombat, pour pouvoir effectuer toute une phase de reconnaissance. Et donc effectivement.
Ouais, avec l'idée que donc si vous le faites avec deux hélicoptères Tigre, vous n'allez pas arriver au bout du problème, c'est-à-dire vous allez probablement les frapper et faire mal,
Ouais,
mais ils
exactement.
vont se diluer forcément.
Voilà.
Alors que l'idée, c'est si vous êtes capable de les suivre et de voir où ils vont, potentiellement il y a moyen de revenir avec ce qu'il faut pour tout contenir et arriver
Exactement.
au bout du problème, quoi.
Et elle est là la problématique. Parce que bien évidemment, le brouillard de la guerre n'aidant pas, on ne sait pas si potentiellement
Oui, ça se
ce
trouve,
groupe va pas prendre la
chacun.
décision d'évoluer, de se déplacer très rapidement, etc. C'est là qu'est toute la difficulté de la prise de décision. Mais à ce moment-là, nous, ça nous dépasse complètement. On est vraiment au niveau du pion tactique.
Oui, c'est le problème de quelqu'un, mais c'est pas le vôtre. Mais
Exactement, c'est ça. Et rapidement, la décision est prise de nous dire, OK, vous désengagez et vous rentrez sur Gao. Donc il y a un peu de frustration, comme toujours, parce que nous, on avait commencé à monter l'ensemble de notre manœuvre, etc. On était à fond, tout était coordonné. Et donc on était prêts, entre guillemets, à en découdre, mais surtout à remplir la mission. Et donc on rentre à Gao. Et très rapidement, on reprend liaison avec le CO de chez nous. Et là, on comprend qu'il va falloir qu'on rentre
Le
en
CO, c'est
ambiance.
encore une fois le centre d'opération.
Exactement. Où se situe le chef de corps du groupement tactique des aérocombats avec l'ensemble de son équipe de commandement. Et donc on comprend qu'il va falloir qu'on rentre en ambiance rapidité parce que l'ensemble du, si je puis dire, du module est en train de se réarticuler. Donc moi je vous rappelle, on est parti d'une mission d'un déclenchement sur alerte. Et là, globalement, on va partir globalement sur un raid dans la profondeur avec.
Donc vous rentrez, vous atterrissez et on vous dit, vous avez le temps pour un café
Non, 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 non,
à...
là, le portage, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Non, non, on n'a pas le temps pour un café. On se pose très rapidement, je me souviens, j'ai encore cette image. On dégage par la bretelle Bravo, pour être précis. Et je tourne la tête et je vois déjà les trois NH90 qui sont sortis. Les GSTM, donc le groupement commando montagne, trois groupes présents au pied de la machine, prêts à embarquer. Un troisième Tigre qui est prêt, sur lequel, et ça
Ah
mérite
oui, non,
de.
mais du coup, vous posez même pas ou vous
Ah
posez quand?
si on se pose,
Vous
parce
posez,
que
mais vous voyez que tout le monde est nerveux et qu'il va falloir repartir.
oui, que globalement les choses sont quand même allées très vite et que là, pour le coup, le degré de réactivité et de réarticulation de moule est plutôt assez, enfin, est très très intéressant et même
Parce
admirable en
qu'ils ont
l'occurrence.
mobilisé tout le monde en un temps.
Ouais, en un temps record, globalement, on était à une demi-heure hein, de la zone d'action. En une demi-heure. L'ensemble du module donc
Le
hélicoptère
temps
de
que vous
manœuvre
rentriez, tout le monde
ouais.
était sorti,
Ouais. Et
quoi.
même en avance puisque faut quand même s'imaginer que on avait quasiment globalement une quarantaine de commandos qui étaient déjà pré-équipés au pied des machines, les machines sorties et nous le troisième Tigre qui nous accompagnait sur la suite de la mission il faut savoir que notre configuration d'alerte c'est deux réservoirs supplémentaires sous les ailettes pour nous permettre d'avoir donc une endurance la plus importante possible et notre canon de 30 mm. Là, le troisième Tigre, il était décidé de l'équiper avec une chaise Hellfire, donc des points d'emport pour les missiles Hellfire. Ça, c'est quand même pas négligeable techniquement pour nos mécanos, parce qu'il faut vidanger le réservoir, le tomber, passer la chaise Hellfire, aller récupérer les missiles, les avionner. Et ça, ils l'ont fait dans un temps record.
Les Hellfire, c'est les missiles anti-tank.
Ouais, alors, exactement, la précision.
D'accord, donc c'est ouais, c'est l'idée que en fait tout le monde avait bien bossé pendant que vous étiez là-bas
Ouais, ouais.
et que bon,
Ça bosse toujours bien, de toute façon.
c'est une bonne
Mais
chose.
pardon. Mais là, la réactivité a été franchement particulièrement admirable.
Donc là, vous repartez.
Bah là clairement, le chef de bord de la deuxième machine et mon chef de bord partent au CO, prendre les éléments. Nous, on reçoit pour consigne de remettre en œuvre les machines.
Vous refaites le plein.
Exactement. Donc, en fait, globalement, c'est ça qui est aussi particulier à la latte, c'est que en OPEX et même en métropole en temps normal, l'équipe mécano et pilote, c'est une seule et même équipe. Donc, en fait, à ce moment-là, le but, c'est d'aider un maximum nos mécanos pour qu'on remette en œuvre le plus rapidement possible les machines. Nous, on se régénère autant que faire se peut, et très rapidement, on prend les éléments. Le but, comme vous l'avez bien compris, c'est de ne pas traîner, parce qu'une nouvelle fois, on ne sait pas comment la situation tactique sur le terrain va évoluer. Donc, plus vite on part, mieux c'est.
Après, il y a le Reaper qui est là-bas pour les surveiller.
Mais... Oui, mais bon, le Reaper, on a certes des optiques performantes, mais n'en a qu'un seul, en termes de voie optique, alors sans m'avancer plus longuement sur le sujet. Mais donc, au bout d'un moment, si ça fait... si ça part dans tous les sens, ça fait boule de feu, le Reaper, malgré toutes ses capacités, sera vite dépassé. Donc, le but, c'est de garder l'ascendant et la capacité de réaction.
Donc là, vous repartez ?
Exactement. On repart, mais en ayant clairement pris le temps de rebriefer, comme systématiquement, hein, l'ensemble de la... Une nouvelle fois, là, c'est quand même pas négligeable. On part avec un module de 6 machines, 3 tigres, dont un qui est prévu de faire une frappe au missile Fire, appuyé par les deux autres tigres.
3 NH-90,
remplis à bord de commandos montagne. Et à cela se rajoute le Reaper qui sera sur zone et a été décidé donc par l'ensemble de la chaîne de commandement d'une frappe chasse coordonnée avec les tigres. Et bien évidemment, le but c'est pas que les chasseurs débarquent et larguent leur GBU et que nous on arrive trois quarts d'heure après.
Donc les chasseurs, les avions de chasse, et les GBU sont les bombes téléguidées, guidées laser. Donc oui, l'idée c'est pas que oui, il faut vu que les chasseurs vont arriver très vite à l'endroit, il faut que ce soit bien coordonné avec le moment où vous-même vous êtes là pour exploiter ça correctement quoi.
Exactement. Donc la décision a été prise, mais et c'est là où en fait l'ensemble de ce qu'on appelle du drill, de toutes les procédures qui sont maintes fois entraînées, vues et revues, nous permettent une nouvelle fois d'acquérir ces automatismes et quand on arrive au résultat. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça déroule malgré les canons conformes, les potentiels pannes, etc. Et là, le but, tactiquement parlant, c'est de frapper quasiment dans la foulée de la frappe chasse. Donc ça demande une coordination assez fine via le Reaper. Et après, derrière, assurer une sûreté à la hauteur de nos moyens sur zone pour pouvoir effectuer la dépose des NH. Donc effectivement, là, comme on aime à le dire dans le jargon, c'est un peu Macao l'enfer du jeu dans nos têtes. Dans le sens où ça saurait si c'était un métier facile, mais c'est là aussi que ça fait tout l'intérêt de la chose, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses, d'éléments à maîtriser quoi. Et donc on part en tête, rapidement on prend liaison avec le Reaper, qui nous met en liaison avec la chasse, on se coordonne dans un premier temps en discrétion, une fois que la frappe chasse est effectuée, nous on est dans un volume, nous assurons la sécurité par rapport au danger close de la munition. Donc en fait, au danger que l'explosion peut représenter pour nous, mais en nous permettant d'être le plus rapide possible, d'arriver sur zone le plus rapidement possible. Donc dans la foulée, on tire Hellfire, donc la machine de tête tire ses missiles Hellfire, deux missiles.
Donc il y a les avions de chasse qui tirent leur truc.
Exactement.
Ensuite, il y a votre copain Tigre qui a des missiles qui tirent ses trucs.
Alors ensuite, quasiment dans la foulée de l'explosion. Donc tout en maintenant la sécurité par rapport au gabarit d'explosion, bien évidemment.
Et ensuite quoi ? Ensuite il y a les caïmans, donc les NH-90 qui doivent déposer les...
Mais avant ça, il faut savoir que il faut toujours avoir ce fameux temps d'avance. Et dans une optique où la manœuvre s'inscrit dans le temps long, il faut qu'on soit en mesure de relever les patrouilles. Donc la machine qui a tiré ses missiles Fire repart sur Gao, on maintient deux tigres sur zone, et en mesure d'être réengagé. Nous, on est sur zone. Comme je vous disais, le but, là, c'est dans un second temps d'observer et d'assurer la sécurité en vue de la dépose. Les NH sont en zone d'attente, donc les NH-90 sont en zone d'attente, attendent ce qu'on appelle, nous, le ICE, donc en gros, la validation que la zone est sécurisée. Et là aussi, une nouvelle fois, nous, en tant que pilote, le but, c'est clairement de se coordonner d'assurer la meilleure des conflictions possibles. Et il faut s'imaginer que...
Des conflictions, donc rappelons que c'est encore une fois bon, que vous ne rentriez pas dedans
exactement.
Les autres hélicos sur, dans le coin. Quoi.
Exactement. Et il faut s'imaginer...
Ce qui a l'air évident, mais en fait, ça ne doit pas être simple, j'imagine.
Non, parce que on a la vitesse pour nous, on a un vecteur qui vole plus lentement qu'un chasseur. Par contre, on est dans des volumes beaucoup plus contraints. Et donc, en fait, très rapidement, la déconfliction est primordiale, parce que la sécurité, déjà, dans un premier temps, c'est le point numéro un. Et donc, très rapidement, on peut se retrouver dans des situations, si on n'est pas vigilant à ce point-là, et où les plaques, malheureusement, s'alignent, et pas forcément dans le bon sens. Et donc, faut être effectivement très vigilant à ce sujet-là.
Donc... Tout a explosé. Il y a les commandos qui attendent dans leurs hélicos un peu loin. Et vous pouvez vérifier que c'est bon avant de leur dire qu'ils peuvent se poser. Et alors, c'est bon ?
Alors, c'est bon, oui. On est même surpris du calme sur zone, parce que moi, je vous rappelle quand même qu'il y avait de 20 à 30 personnels armés sur zone. Et en fait, on a très peu de mouvements. Et pour comprendre un peu une petite parenthèse au sujet du travail en équipage, le chef de bord, lui, en permanence en place arrière, il a des commandes supplémentaires qui vont lui permettre de piloter sa caméra, de travailler via sa caméra et via l'ensemble des senseurs et des capteurs dans le Tigre. Et nous, en permanence, le pilote, le but, c'est de regarder à l'extérieur, parce qu'il faut bien qu'il y ait un personnel qui regarde à l'extérieur. Et donc, en reprenant le terme énoncé précédemment, on a l'overwatch de la situation. Concrètement, ça se traduit par quoi ? On a quand même des fonctions qui sont quand même très isolées. Nous, en tant que pilote, on est très rapidement autonome. C'est ce qu'on nous demande quand on monte en puissance, en heure de vol, avant d'être projeté, d'être le plus autonome possible. On est même assez souvent seul, et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, il faut quand même suivre ce qui se passe derrière, parce que le chef de bord, lui, n'a pas le temps de t'expliquer, de te dire ce qu'il faut faire. Donc au contraire, toi, il faut que tu le serves le mieux possible. Et donc concrètement, lui va scanner à travers, pour vous donner d'idée, à travers un écran, un carré de globalement de 100 mètres par 100 mètres. Mais ça peut être un scan sur une forêt qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Et donc concrètement, nous, et c'est là où le lien est hyper important, c'est que nous, on va donner la cible via notre casque, parce qu'on peut corréler en fait et lier la caméra au casque. Et donc en permanence, en fait, c'est ce travail d'équipe hyper important en comparaison.
Donc c'est vous qui avez le coup d'œil d'ensemble et qui dites exactement là où il faut pointer la caméra, là où c'est intéressant.
Voilà.
Et alors là, dans ce cas-là, donc vous pointez la caméra et il n'y a plus grand-chose qui bouge.
Non, voilà. Donc régulièrement, le shadow dit « Ok, tu peux m'annoncer un stable sur telle zone ? Ok, stable, ok, je prends. » Lui, scanne, et ainsi de suite. Donc en fait, on est un peu en toute humilité, mais un peu le bras armé du chef de bord en ce sens-là.
Donc là, il n'y a plus grand-chose qui bouge. Donc,
on donne le ISO NH 90, donc les 3 NH. Et donc, une nouvelle fois, on doit assurer la sécurisation de la zone. Et pendant toute la partie de dépose, c'est là où les hélicos sont les plus vulnérables. Donc aussi, on se doit de positionner la machine de manière à être en mesure d'appliquer des feux et d'appui de protection des NH en permanence. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a une autre machine qui vole aussi. Donc en fait, il faut qu'on se coordonne. Et puis, une nouvelle fois, le réseau radio peut être très vite chargé. Hein. On a les NH, les avions de chasse qui sont passés précédemment, le drone, l'ensemble de la liaison qui est à maintenir au niveau compte-rendu, parce que bien évidemment, nos chefs doivent être alimentés en permanence de
oui,
l'évolution
de la situation tactique. Il doit falloir gérer plusieurs fréquences.
Donc effectivement, ça devient assez vite chargé, et d'où l'importance de limiter un maximum, à notre niveau, les échanges avec notre chef de bord. Je m'explique, une nouvelle fois, c'est pour ne pas le polluer. Et voilà. Et donc le verre est donné, et donc on assure la sûreté de dépose des commandos qui vont donc à l'issue progresser et sous notre protection. Et une fois qu'ils progressent, c'est là où il est primordial qu'on se connaisse tous bien et qu'on s'entraîne les uns avec les autres. Parce que quand on se connaît, on sait comment les groupes vont évoluer, comment ils se déplacent, et quel est leur travail au sol, etc. Donc en fait, on est à même d'avoir une idée encore plus claire de la manière dont les choses peuvent évoluer, etc. Sachant qu'une nouvelle fois, la menace, le risque zéro n'existe pas. Et donc, en fait, on se doit aussi d'assurer leur sûreté. Et puis, les distances d'engagement peuvent parfois être très courtes. Et une nouvelle fois, par exemple, si on est amené à ouvrir le feu, parfois, ça compte en centaines de mètres entre les positions des commandos ou des troupes au sol qu'on appuie et la menace et l'ennemi ou la position ennemie.
Bon, et là, ça s'est bien passé.
Là, clairement, en fait, l'ensemble de la phase donc de reconnaissance des commandos durera encore quelques heures pour être sûr d'avoir ratissé l'ensemble du secteur. Et nous, au bout d'un moment, on arrive en fin de playtime, donc en fin d'endurance sur zone, et on rentre. Au bilan, une mission qui aura duré quasiment un peu plus de 6 heures, avec la neutralisation de quasiment une trentaine d'éléments ennemis armés, et plutôt bien armés, et il se révélera que cette position-là était une position comme une sorte de centre de formation, ni plus ni moins, ou d'entraînement, et même de confection de gilets de combat, entre autres, etc. Donc on est quand même face à une menace qui est organisée, qui sait se battre, et qui s'adapte à nos modes d'action, clairement. Donc clairement, quand ils entendent un tigre arriver, ils savent très bien que s'ils bougent, ils vont être décelés, et donc ils vont rester fixes, et ils vont attendre qu'on soit que dans des positions vulnérables, typiquement lors d'une phase de dépose, pour par exemple ouvrir le feu, ou quand on peut être amené à passer bas dans des...
Là, vous alliez pas être vulnérable très souvent avec entre les chasseurs, le tigre avec les Hellfire. Bon, ça paraissait assez bien cadré.
C'était la volonté du commandement, en fait, d'avoir un effet de sidération le plus important possible, et ça a été le cas. Et là, pour le coup, entre guillemets, mission accomplie, quoi.
Et après, j'imagine bien qu'entre tigre, après, vous en reparlez, vous débriefez, etc. Mmh. J'imagine que peut-être avec les Caïmans, les NH90 aussi, vous en parlez aussi.
On en fait même plus qu'en parler, c'est-à-dire qu'il y a toujours une phase de débriefing.
Et non, mais ma question, c'est aussi jusqu'où elle va, c'est-à-dire est-ce que les chasseurs ils viennent aussi, est-ce que les commandos montagne ils viennent aussi, est-ce que tous ceux qui ont pris parti à ce truc-là à un moment ou à un autre viennent en discuter à un moment? Ou est-ce que c'est bien à l'échelle des gens qui font la même chose de débriefer, mais bon, il n'y a peut-être pas besoin d'inviter tout le régiment, quoi.
L'humilité. Donc en fait, quand systématiquement rien n'est jamais acquis, donc forcément il y aura toujours une phase de débriefing. Il faut savoir que le détachement drone et chasse est basé à Niamey, mais en fait on s'appelle, enfin les chefs de patrouille, le chef de corps, enfin il y a quand même une liaison qui est établie, et donc en amont. Quand on est sur des missions, on a un caractère de préparation. Effectivement, on va se coordonner si on est amené à travailler ensemble, ou au sein même du GTDA, bien évidemment, dans toute la phase de montée en puissance, de préparation de la mission. Et à l'issue, bien évidemment, il y a toujours une phase de débriefing, puisqu'il y a toujours des enseignements à en tirer. Donc, bien évidemment. Et les commandos, il faut savoir alors jusqu'à présent, parce que ça a un peu évolué, le portage a un peu évolué, mais jusqu'à présent, en fait, les commandos montagne étaient intégrés au sein même du GTDA. Donc, en fait, on avait, entre guillemets, notre pool d'infanterie, plutôt hyper spécialisée et compétente, qui était intégrée. Et ça, c'est une grande force, parce qu'on se connaît. On se connaît quasiment même par cœur. Nous, pour le détachement Tigre, donc du 1er arraché, du 5e arraché, on est en auto-relève. Donc en fait, on se connaît tous entre nous, c'est une petite famille, et même les commandos, par exemple, il suffit de faire 2-3 mandats, et en fait vous connaissez toute leur équipe, parce qu'au final c'est quand même des volumes qui sont assez restreints en termes de personnel. Donc en fait on se connaît tous, et ça permet d'avoir clairement une efficacité in fine décuplée. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette phase primordiale de débriefing, parce qu'il y a toujours des choses qui sont plus ou moins bien passées. Évidemment, hein, les canons conformes, et puis c'est toujours facile après coup au calme de dire si j'avais su j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et donc la phase de briefing est quand même importante pour à tête froide dire ok, ça c'était bien, ça c'était moins bien, on aurait dû plutôt la faire comme ça, pourquoi t'as fait ça, et donc faire évoluer les choses dans le bon sens, puis c'est comme ça qu'on acquiert l'expérience aussi.
Très bien, merci beaucoup Capitaine Pierre.
Je vous en prie, avec grand plaisir.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.